L'Église de la Victoire du Québec vous présente un message de foi et de victoire par le pasteur Joel Spinks. Nous prions que vous recevrez la révélation qui vous permettra de découvrir et de saisir la vie abondante prévue par Dieu pour ses enfants.
Et ce matin, l'enseignement, c'est vraiment sur une chose que nous connaissons tous d'une certaine façon. Nous connaissons intellectuellement. Mais aujourd'hui, non seulement est-ce qu'on va le connaître ici, mais ma prière, c'est qu'on puisse le recevoir profondément dans nos cœurs. L'amour de Dieu. Vous allez voir que c'est vraiment important que chaque personne dans cette église puisse le savoir vraiment, intimement, que Dieu nous aime. Parce que le Seigneur, dans les semaines qui vont venir, en 2013, je crois que le Seigneur veut nous multiplier davantage. Amen. Vous êtes là. Mais en 2013, il y a une autre personne qui va se rajouter. Vous allez vous multiplier. Savez-vous ça? Je prophétise sur vous. Vous allez vous multiplier. Si vous dites, oui, mais moi j'ai déjà en masse d'enfants, pasteur, je veux pas d'autres enfants. Je n'ai pas dit vous aurez des enfants physiques nécessairement. Je suis en train de parler d'une multiplication spirituelle. Que l'amour que vous recevez, que vous connaissez, que vous avez reçu comme une révélation personnelle, que cette révélation va transpirer de qui vous êtes et les gens vont découvrir l'amour de Dieu à cause de vous. Mais premièrement, c'est certain que nous devons premièrement avoir notre propre révélation de l'amour de Dieu et qu'on puisse enlever des fois les choses qui sont là, que la religion nous a enseignées, qui nous empêchent de vraiment expérimenter l'amour de Dieu. Et c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. On va enlever des notions religieuses qui sont là pour revenir à la parole de Dieu parce que le Seigneur se veut un peuple vraiment, en anglais on dit « made perfect », rendu parfait, rendu mature dans l'amour de Dieu. Vous devez être mature dans l'amour de Dieu dans le sens vous connaissez vraiment qui vous êtes et vous connaissez votre valeur, que vous avez une grande valeur aux yeux de Dieu. Et aujourd'hui, on va aller dans la parole de Dieu dans Jean chapitre 17 et le verset 23. On remercie le Seigneur parce qu'il est ici ce matin par son Saint-Esprit. Cette parole est déjà bénie et nos cœurs sont déjà prêts ce matin pour recevoir sa parole. Dans Jean 17, verset 23 plutôt, Jean 17, verset 23, Jésus a dit au Père, « Tu les as aimés en parlant de vous, tu les as aimés comme tu m'as aimé. » L'amour du Père pour vous est identique à l'amour que le Père a eu pour son propre Fils. Arrêtez-vous quelques instants et réfléchissez à ça. Que Dieu le Père m'aime comme il a aimé son propre Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourtant, même si on peut savoir ça aujourd'hui, il y a plusieurs personnes dans notre monde qui sont toujours à la quête, à la recherche de l'amour. Et il y a plusieurs personnes, même parfois dans nos églises, qui sont à la recherche de l'amour, de toutes sortes de façons. Même si on sait que Dieu nous aime, pourtant, il y a une recherche qui est là. Et même des fois, dans nos églises, on peut essayer de performer, on peut faire des ministères, on peut faire des choses pour essayer de gagner l'amour de Dieu et de gagner l'amour des gens dans les églises. Et d'autres personnes dans le monde, malheureusement, parfois dans les églises, ça peut exister, mais dans le monde, les gens, quand ils sont dans une recherche de l'amour, parfois se tournent vers la drogue ou l'alcool parce qu'ils sont vides en dedans. Ils vivent vraiment une vie où ils se sentent vides. Ils sont à la recherche et puis vont essayer, ils vont aller prendre une bouteille d'alcool, ils vont se remplir de cet alcool pour finalement réaliser qu'ils restent vides. Et aujourd'hui, ce message s'adresse à vous, puis en même temps, ce CD va être disponible pour vous, pour que vous puissiez le donner à quelqu'un qui est vide. Donc, gardez ça en tête. On approche les temps de Noël, le temps de Noël, le temps des fêtes. Et il y a des gens que le Seigneur désire que vous puissiez leur donner ce CD, pour leur donner l'espoir, le seul espoir qui est disponible, qui est dans la parole de Dieu. Les gens se tournent vers l'alcool, la drogue. D'autres personnes se tournent vers le service. même communautaire, les gens se disent, ben si je vais aider, si je ramasse des denrées non périssables, au moins je fais quelque chose de bien dans le temps des fêtes et je vais essayer de gagner à quelque part l'amour ou la faveur de Dieu. D'autres personnes se tournent vers l'immoralité, se tournent vers des femmes, des hommes pour essayer d'être aimés par quelqu'un. Mais ils se donnent comme ça, puis finalement, qu'est-ce qui se passe? Au lieu d'être remplis, ils sont laissés vides, mais également sales. Ils se sentent sales et même pires. Et on a une planète de gens, une planète de personnes qui sont là à la recherche de l'amour. Mais pourtant, il y a une seule source de cet amour qui va venir nous combler, et c'est l'amour de Dieu. Et c'est important aujourd'hui qu'on puisse s'arrêter pour méditer sur l'amour de Dieu qui change des vies. L'amour de Dieu véritable change des vies. Je vais vous inviter à tourner avec moi dans Romains chapitre 5. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai eu la révélation que je suis aimé de Dieu. Je suis aimé de Dieu. Et parce que je suis aimé de Dieu, je marche dans la liberté. Je marche dans la joie. Je marche dans une sécurité, sachant que si je meurs aujourd'hui, je vais passer l'éternité avec Dieu. Et j'ai une paix dans mon cœur. Et c'est merveilleux. Et comme on chantait ce matin, ce chant-là, « Tu places les étoiles dans le ciel. » Tu places les étoiles dans le ciel. Et quand on s'arrête des fois, je ne sais pas si vous arrivez chez vous tard le soir, et parfois nous à Bromont, on peut voir les étoiles. Des fois, dans des grandes villes, on a de la misère à voir les étoiles, tellement il y a d'autres éclairages. Mais à Bromont, il est assez noir, et on peut voir les étoiles dans le ciel. Et on s'imagine et on réfléchit, celui qui a placé les étoiles, notre Dieu créateur, pourtant même s'il est grand et puissant, et même si la planète Terre, c'est minuscule comparativement à d'autres planètes, on comprend que ce créateur s'est intéressé à nous. Imaginez. Le Créateur du ciel et de la terre s'est intéressé à nous et nous aime. N'est-ce pas absolument merveilleux de savoir ça? Dieu m'aime. Wow! Pourquoi? Pourquoi? Dieu est amour. Et Dieu, dans son amour, il voulait déverser son amour sur des créatures. Et moi, je suis un candidat. Êtes-vous un candidat aujourd'hui pour recevoir plus de son amour? Bien, moi, je dis oui. Dans Romains chapitre 5, on va aller ensemble au verset 5. 5 à 10, il est écrit, « Or l'espérance ne trompe point, dans le sens que cet espoir que nous avons ne trompe point, c'est vraiment vrai. Parce que l'amour de Dieu, comme pasteur Jérémie a mentionné, est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Parce que nous avons le Saint-Esprit. Si nous avons fait de Jésus le Seigneur de notre vie, nous avons le Saint-Esprit. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Je veux souligner ce matin des faits, des vérités de la parole de Dieu qui sont vraiment importantes. Ces vérités-là, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Réalisez ceci, que Dieu vous aimait même lorsque vous étiez pécheurs. J'ai rencontré des gens dans une religion qui me disaient, bien Dieu ne nous aime pas vraiment jusqu'à ce qu'on devienne ses disciples. Et quand on commence à marcher d'une façon droite, une façon intègre, c'est alors que Dieu nous aime. Mais avant ça, Dieu ne nous aime pas. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu prouve son amour envers nous. Or, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Christ est mort pour les pécheurs, enfants de Dieu. Christ est mort pour nous. Verset 9, à plus forte raison. Donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère, ou si on veut du jugement, on est sauvés du jugement et nous sommes déclarés justes. Imaginez cela. À cause de l'amour de Dieu, à cause du sang que Jésus a versé, la parole de Dieu nous dit ici que nous sommes déclarés justes. Et c'est important pour nous de revenir sur ces vérités-là. Parce que trop souvent, dans notre activité chrétienne, on oublie des choses. Et j'ai la preuve parce que parfois je parle avec des enfants de Dieu qui me racontent leur vie, qui me racontent des choses et je réalise qu'on est encore à la recherche de l'amour. Certains d'entre vous, ce matin, vous allez réaliser, c'est vrai, je suis encore à la recherche de l'amour et au lieu de recevoir l'amour de Dieu, j'étais à la recherche. Mais aujourd'hui, vous pourrez arrêter de chercher et dire, Seigneur, je reçois cet amour. Verset 10, car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie ou par le don de sa vie. Nous sommes sauvés aujourd'hui par le don de sa vie. Amen. Gloire à Dieu pour ça. Mais certaines personnes, malgré cette vérité-là, malgré le fait qu'on entend parler de l'amour de Dieu à droite et à gauche, malgré ce fait-là, il y a plusieurs personnes qui ne ressentent pas l'amour de Dieu et qui sont quand même dans un état de découragement, un état de détresse, sont dans une détresse, sont malheureux. Mais la chose la plus merveilleuse, c'est lorsque nous réalisons justement que nous sommes malheureux. Quand nous réalisons qu'on est au bout du rouleau, ça, c'est une bonne révélation, enfant de Dieu. Et vous allez dire, mais pourquoi le pasteur dit ça? Quand on réalise, je suis vide et malheureux, et lorsqu'on est prêt à arrêter de jouer au jeu et de faire à semblant qu'on est heureux, mais quand on réalise, puis on arrive au bout de nous-mêmes, puis on réalise, finalement, après tous ces efforts-là, je suis quand même vide et malheureux. C'est alors que Dieu peut intervenir. C'est alors où on peut se tourner vers le Seigneur et dire, Seigneur, je suis encore vide, j'ai essayé, j'ai cherché dans l'alcool, j'ai cherché dans la sexualité, j'ai cherché dans la religion, j'ai cherché longtemps. Et là, je suis prêt à venir à toi et m'abandonner et te demander, révèle-toi à moi. C'est merveilleux. Dans le psaume 34 et le verset 6, dans le psaume 34 et le verset 6, ici, c'est une vérité bénissante. Parce que vous savez, la parole de Dieu, là, cette parole est écrite pour nous, pour qu'on puisse connaître la vérité. Et lorsque nous découvrons la vérité et nous la saisissons, nous laissons cette vérité nous parler, elle change littéralement nos vies. Et elle changera également la vie de vos proches. Si vous faites prendre ces versets-là, les déposer dans vos cœurs, les écrire sur une feuille, méditer la semaine sur ces versets-là. Et par la suite, les gens dans le besoin, dans vos vies, vont pouvoir recevoir cet amour de Dieu. Dans le psaume 34 et le verset 6, il est écrit, « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. » Il y a plusieurs personnes que vous allez rencontrer dans les semaines qui vont venir. On est dans le mois de décembre ici, Noël approche, et vous allez rencontrer des gens dans vos familles, des amis. Mais il y a plusieurs personnes qui sont là, pris avec l'anxiété. Ils vivent toutes sortes de détresses, toutes sortes de difficultés. Mais la parole de Dieu nous dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Et peut-être vous serez la bouche de Dieu pour eux. L'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Peut-être vous serez l'oreille de Dieu pour eux. Vous allez entendre leur douleur et vous pourrez leur dire, « Mais je connais quelqu'un qui peut t'aider. » L'Éternel entend. Dans Ésaïe 59 et le verset 1, ici, on a la réponse. Pour les personnes qui se disent, « Oui, mais je ne sais pas pour moi, je ne suis pas une personne religieuse, je ne sais pas, je suis dans toutes sortes de difficultés, mais je ne suis pas sûr que Dieu peut vraiment m'aider. Qui, moi? » Ou peut-être, je suis même pas digne, je suis indigne de recevoir cet amour. Vous connaissez pas ma vie, tout ce que j'ai fait, je suis indigne. Mais Ésaïe 59 nous dit ici, « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais notre Dieu est compatissant. Le Dieu de la Sainte Bible, c'est un Dieu compatissant, rempli d'amour. » Le Dieu de la religion, ce n'est pas un Dieu d'amour. C'est un Dieu, parfois, on peut le mentionner comme étant un Dieu d'amour. Sauf le mentionner, le citer, mais de le vivre, c'est autre chose. Mais de vraiment découvrir l'amour de Dieu, ça prend une révélation, ça prend un miracle. Et aujourd'hui, on peut vivre ce miracle. Je vais vous inviter à aller dans le psaume, pardon, dans Ésaïe 57. Ésaïe 57 et le verset 15. Pour certains qui vivent des choses difficiles, des combats avec le péché, toutes sortes de combats avec peut-être la dépression, toutes sortes de choses. Dans le temps de Noël, il y a même des gens qui pensent au suicide, des moments très difficiles pour certains, même si de l'extérieur, ça peut sembler comme un temps de réjouissance, mais pour plusieurs, c'est difficile. Il y a des gens qui disent, est-ce que ce Dieu de la Bible peut vraiment se révéler à moi? Est-ce que c'est vraiment possible? Dans Ésaïe 57 et le verset 15, ici on voit un texte merveilleux. Il est écrit, « Ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. » Quand on regarde ce texte dans la version anglophone King James, ça nous dit, « Ainsi parle le Très-Haut qui habite l'éternité. » En français, ça dit, « dont la demeure est éternelle », mais je préfère en anglais, et même je suis allé voir en hébreu, « qui habite l'éternité ». Ceci veut dire que notre Dieu, c'est un Dieu éternel. Un Dieu éternel, il n'y a pas de fête, il n'y a pas une journée où il a commencé, et il n'y a pas une date où il va mourir. Mais notre Dieu est éternel, pas de fin. C'est impossible pour nous, les êtres humains, de tout saisir sur Dieu, et le définir et le mettre dans une boîte, parce que Dieu a toujours existé, il va toujours exister, il est éternel. Puis ici, « Ainsi parle le Très-Haut, qui habite l'éternité et dont le nom est saint. » Écoutez bien ce qu'il dit à l'humanité. « J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit, qui veut dire accablé, et humilié, mais je suis avec l'homme contrit et humilié ou abattu. Afin, je suis avec vous, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. » Dans la Bible du Sommeur, ça dit, « afin de vivifier le cœur des hommes accablés. » Donc, vous devez comprendre que le Dieu de la Bible, c'est un Dieu compatissant, qui est là, qui est proche de celui qui a le cœur brisé. Et pourquoi que le Seigneur est là? C'est parce qu'il veut relever cette personne. Il veut que cette personne puisse découvrir l'amour véritable. Et qu'est-ce qui est merveilleux? Non seulement ce qu'on peut vous dire que, oui, ce Dieu existe, ce Dieu de la Bible, ce Dieu d'amour existe, mais en plus, nous pouvons découvrir des personnes qui ont goûté à cet amour. Nous l'avons goûté, personnellement, j'ai goûté à l'amour de Dieu lorsque j'avais environ 3-4 ans, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie et j'ai découvert l'amour de Dieu qui a changé ma vie à tout jamais. Mais on peut voir dans la parole de Dieu également des personnes, des congrégations qui ont accepté le Seigneur et qui ont vécu l'amour de Dieu. Et je vais vous inviter à aller avec moi dans Éphésiens chapitre 2. On va lire ensemble ici un passage, une église qui a vraiment goûté à l'amour de Dieu. Éphésiens chapitre 2. Et je vais vous lire dans la Bible du Sommeur. Éphésiens chapitre 2. Je rends grâce à Dieu pour les personnes qui acceptent le Seigneur. Nous sommes dans une saison merveilleuse. Même sur Internet, les gens qui acceptent le Seigneur, des gens qui me disent, j'ai prié avec vous. Ce message est bon pour un croyant de 50 ans dans le Seigneur comme quelqu'un qui a 5 jours dans le Seigneur. L'amour de Dieu est inépuisable. On a besoin d'entendre parler de l'amour de Dieu parce qu'on a besoin de marcher dans l'amour. Mais la seule façon de marcher dans l'amour, c'est lorsque nous réalisons comment Dieu nous aime et comment nous avons de la valeur. Et quand on réalise que nous avons de la valeur aux yeux de Dieu, on va avoir un cœur compatissant pour les gens qui sont perdus. Et au lieu d'approcher les gens avec une attitude difficile ou une attitude sévère, on va avoir le cœur de notre Père céleste pour ces gens-là. Dans Éphésiens chapitre 2, versets 1 à 6, ici nous lisons un texte que l'apôtre Paul écrit aux croyants de l'Église en Éphèse. « Autrefois, dites autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » Vous étiez spirituellement mort, c'est ça que ça veut dire. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Il est en train de dire ici, l'apôtre Paul est en train de dire, vous suiviez l'ennemi finalement. Au verset 3, nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes. Et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Pourquoi? Parce que leur esprit était mort. Leur corps charnel, ils vivaient selon la chair. Aussi étions-nous, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Comme tous les pécheurs sont là, destinés à vivre la colère de Dieu, parce que tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ vivront la colère de Dieu et le jugement. Mais là, on a un verset bénissant. Verset 4. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts, à cause de nos fautes, il nous a fait revivre, ou dans Louis II, ça dit, nous a rendus à la vie, les uns et les autres avec le Christ, ou on peut traduire avec le oin. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et là, par notre union avec Jésus, dans Louis II, en Jésus, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. C'est intéressant, pasteur Jérémie a cité ce verset-là également lorsque nous avons pris la Sainte Cène. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, veut révéler des choses, veut nous rappeler, nous rafraîchir certaines vérités ce matin. Verset 4, ça dit « Dieu est riche en bonté ». Ça veut dire que Dieu est bon pour vous. Croyez-vous ça ce matin? Dieu est bon. À cause du grand amour dont il nous a aimés. Il ne nous a pas juste aimés moyennement, si ça peut même exister. Mais il nous a aimés avec un grand amour. Son amour pour nous est éternel et infini. Alors que nous étions spirituellement morts, on était éloignés de Dieu, sans espoir, à cause de nos péchés. Là, le verset qu'on lit souvent et qu'on passe à côté, on ne prend pas le temps de méditer, mais ça dit, il nous a fait revivre les uns et les autres avec Christ. Vous n'êtes plus mort, mais vous vivez maintenant. C'est par la grâce, une faveur non méritée que vous êtes sauvés. Et là, le verset 6, « En Jésus, Dieu nous a ressuscités ensemble. » Et quand on étudie dans le grec, ça veut dire faire lever ou il nous a élevés avec Christ. Il y a des gens qui pensent que Dieu veut qu'on soit toujours écrasé à terre et c'est d'une certaine façon, c'est une façon de marcher dans l'humilité. Mais Dieu a pris des gens qui étaient à terre et ce qu'il veut faire, c'est les élever. Il veut les élever pour qu'on puisse vivre la vie du ressuscité. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui, pour démontrer au monde qu'ils n'ont pas besoin de se tourner vers la drogue, l'alcool, le péché de toutes les sortes pour essayer d'être aimés. Mais l'amour est disponible en Jésus-Christ. Amen. Donc, à partir d'une position de pécheur, par amour, Dieu nous a élevés. Il nous a donné une position céleste de juste que nous venons de lire. Et ce, en plus, quand on dit « nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes », quand nous siégeons, ici c'est une position de repos. Nous sommes au repos, saviez-vous ça? Repos, oui. Tu dis, ben, prouve-moi ça par la parole. Je suis content de vous lancer le défi. Allons ensemble dans Hébreux chapitre 4. Hébreux chapitre 4 et le verset 3. Je suis au repos. Est-ce que ça veut dire que je ne fais rien pour Dieu? En ce moment, vous venez de voir, vous m'entendez, je suis en train de prêcher. Donc, je fais quelque chose, je suis actif. On prêche la parole, nous servons le Seigneur de tout notre cœur. Mais en même temps, nous sommes au repos. Comment ça marche? Hébreux 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Ah, c'est merveilleux. Il nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Pourquoi? Parce que j'essaie plus de gagner l'amour de Dieu. J'essaie plus d'essayer de gagner des faveurs. Mais non, ou même d'acheter ma justice ou devenir juste. Peut-être un jour je vais devenir juste. Non, je suis assis aujourd'hui et je suis au repos parce que Jésus-Christ a tout accompli pour moi ce matin. Alléluia, c'est une vérité qu'on peut croire. Et non seulement ça, dans 2 Corinthiens 5, verset 21, ça nous parle ici que nous sommes devenus justes. Nous sommes justes en Jésus. Justes. On n'est plus pécheurs. Dans 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, ici on parle de Jésus, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est pour ça aujourd'hui que nous pouvons être dans un repos total, parce que je suis la justice de Dieu. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Gloire à Dieu! On a besoin d'expérimenter ce repos-là, de recevoir l'amour de Dieu, comprendre que nous marchons dans la justice, comprendre qu'il nous a élevés dans une position de sainteté. Je suis le saint de l'Éternel, comme vous êtes les saints de l'Éternel. Et on a besoin ce matin de réfuter un mensonge satanique. On a besoin de réfuter un mensonge qui dit « J'ai besoin d'agir d'une certaine façon pour que Dieu m'aime. » Et on va aller ensemble, on va prendre un verset qui est très populaire, que les gens vont prendre pour nous enseigner que si vous voulez être aimé de Dieu, vous devez performer. C'est important pour nous d'être équipés, enfants de Dieu. Allons ensemble dans 1 Jean chapitre 5 et le verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Parce que vous entendez ce message aujourd'hui, vous êtes là, vous êtes avec moi, puis vous dites « Amen, oui, je crois ça, c'est la parole de Dieu. » Tout ce que le pasteur a dit ici, c'est dans la parole de Dieu. Mais vous allez rencontrer des gens qui sont parfois dans la parole de Dieu, mais qui n'ont pas reçu la révélation de l'amour de Dieu et qui vivent encore sous un joug de performance. Et vous avez non seulement le besoin de vous protéger pour ne pas être séduit, pour entrer là-dedans, mais en même temps, vous avez besoin de secourir ces personnes-là. Savez-vous que le Seigneur veut se servir de vous pour secourir des gens qui sont écrasés par la religion? Saviez-vous ça ce matin? Le Seigneur veut se servir de vous. Vous allez des porte-paroles pour Jésus. Et les gens qui ont soif et qui sont à la recherche de l'amour, ils vont retrouver cet amour à cause de vous. À cause, vous avez la parole de Dieu. Des fois, on dit, oui, c'est bon que je connaisse l'amour de Dieu, mais ne soyons pas égoïstes, enfants de Dieu. Il ne faut pas juste se laisser remplir de cet amour, mais on doit également laisser cet amour transpercer notre vie, transpirer cet amour-là pour que les gens puissent entrer dans cette expérience-là également. Dans 1 Jean 5, verset 3, il est écrit, « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Je vais relire, « L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et l'interprétation qu'on a donnée à ce texte-là, c'est « Dieu vous aime si vous gardez ses commandements. » Donc, vous comprenez ici qu'est-ce qui est enseigné? « Dieu vous aime si vous gardez ses commandements. » Et vous dites, « Ben, j'ai jamais entendu ça. » Bien, vous allez rencontrer des gens éventuellement qui vont vous le dire, possiblement. Mais c'est vraiment un mensonge et on prend un texte de la parole de Dieu. Même j'ai vu un livre récemment qui a été écrit là-dessus, qui enseignait que pour être aimé de Dieu, vous devez respecter ses commandements. Est-ce qu'on est en train de dire ici qu'on ne veut pas respecter les commandements de Dieu? Non, certainement pas, vous allez voir. Mais c'est tellement important pour nous de comprendre ici. Dans Romains 5, verset 8, on a déjà lu, juste le premier texte qu'on a vu ensemble au début de la réunion, dans Romains 5, 8, ça dit « Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Juste ce verset-là vient détruire cette fausse interprétation-là, enfant de Dieu. Quand on était pécheurs, Christ est mort pour nous. Et Dieu prouve son amour par cela. Donc, comment est-ce qu'on peut dire que je dois suivre les commandements de Dieu pour être aimé de Dieu? Là, ce qu'on va faire, on va aller dans Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15, et on va comprendre le texte, un texte important. Jean 14, verset 15, il est écrit, « Laissez-vous, pardon, si vous m'aimez, dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Voyez-vous ici ce qu'on a besoin de comprendre? C'est si nous aimons Dieu, nous allons garder ses commandements. Ce n'est pas l'inverse. Mais la religion a fait l'inverse, a dit, Dieu vous aime si vous respectez ses commandements. Mais la Bible nous dit, vous aimez Dieu si vous respectez ses commandements. C'est le « vous » ici qu'on veut voir. Comprenez-vous qu'est-ce que je suis en train de dire? Jean 14, 15, ça dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, j'aime Dieu si je respecte ses commandements. C'est une façon que je révèle à Dieu que je l'aime. C'est parce que je respecte ses commandements. Et vous avez dit, mais quels sont ses commandements? Est-ce qu'on est dans une église légaliste sous un joug? On va voir ensemble. Comprenons maintenant, on va retourner au même texte que les gens vont nous citer pour nous faire croire qu'on doit performer pour être aimé de Dieu. On va retourner dans 1 Jean, mais maintenant, on va prendre 1 Jean chapitre 5 et on va le prendre dans son contexte pour voir ce que Dieu nous dit. Vous allez voir, c'est un message libérateur. C'est un message libérateur et c'est ce message qui change nos vies, qui change notre façon de vivre pour le Seigneur. 1 Jean chapitre 5 et commençons au premier verset. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Ici, on parle de la nouvelle naissance de Jean 3:3. Et quiconque aime celui qui l'a engendré, qui nous parle de Dieu, aime aussi celui qui est né de lui. Qui est né de lui? Vous. Vous êtes né de Dieu, n'est-ce pas? Donc, vous aimez le corps de Christ, les enfants de Dieu. Verset 2. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. OK? Et là, au verset 3, c'est dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Mais quels sont ses commandements? On va prendre une pause ici, on va juste aller voir les commandements que Dieu nous demande de respecter dans cette nouvelle alliance. Dans Matthieu 22, 37 à 39. Le diable ne m'aime pas en ce moment, je peux vous dire ça. On est en train de le déranger. Parce que certains d'entre vous, vous avez vécu sous un joug, même si vous étiez à l'Église La Victoire du Québec, certains d'entre vous, vous avez dit, si seulement je peux être aimé de Dieu, si je peux juste respecter 100% ses commandements, là, Dieu va vraiment m'aimer. Mais vous venez d'apprendre ce matin que même lorsque vous étiez le pire pécheur sur la planète, Dieu vous aimait, comme vous étiez. Est-ce que ça veut dire on reste comme ça? Non, certainement pas. Mais l'amour de Dieu pour vous est éternel. Dieu vous aime comme vous êtes. Matthieu 22, verset 37 à 39. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Là, dans Galates 5, 14, c'est dit, « Toute la loi, tous les commandements si on veut, toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Voyez-vous, c'est ça les commandements de Dieu. C'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. On n'est plus appelé à vivre sous la loi et faire des sacrifices. Mais si on aime notre prochain, ça veut dire qu'on marche dans l'amour et nous accomplissons parfaitement la loi de Dieu en marchant dans l'amour. Gloire à Dieu. Dans Romains 13, verset 8, c'est dit « Celui qui aime les autres a accompli la loi. » Prenez ça en note. « Celui qui aime les autres. » Je suis en train de lire dans Romains 13, verset 8. « Celui qui aime les autres a accompli la loi. » Donc, l'amour, c'est la chose la plus importante dans nos vies. C'est d'aimer. Bon, je reprends mon texte dans 1 Jean, chapitre 5, verset 3. « Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. » Et quel commandement? Le commandement d'aimer. « Et ses commandements, qui concernent notre amour pour les autres, ne sont pas pénibles. » Pourquoi? Parce qu'on a l'amour de Dieu qui coule à travers nos vies. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Si vous avez la nouvelle naissance, vous êtes né de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu, c'est dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Même les plus détestables dans votre environnement, là, vous allez triompher sur eux et vous allez être capable de les aimer. N'est-ce pas merveilleux? Parce que tout ce qui est né de Dieu, si vous avez l'Esprit de Dieu en vous, triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et là, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Et là, mon voisin, c'est quelqu'un de détestable. Il n'est pas fin. Il fait du bruit la nuit. Il me réveille en milieu de la nuit. Son chien, le matin, m'accueille en jappant. Et là, dans ma chair, il se dit, on le déteste. Ah, mais non, je suis connecté avec l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu coule à travers moi. Et là, je l'aime. Mais c'est un miracle, ça. Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'amour de Dieu consiste à aimer Dieu et son prochain. Et non, je gagne l'amour de Dieu en pratiquant ses commandements. Non, l'amour de Dieu, je l'ai déjà. Mais parce que j'aime Dieu, je veux aimer également. C'est simple, hein? C'est simple. Mais la religion lance toujours des pièges. Prépare des pièges. Aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est découvrir les profondeurs de l'amour de Dieu. C'est une chose de le savoir dans notre tête, mais c'est de découvrir vraiment les profondeurs de l'amour de Dieu. Êtes-vous prêt ce matin à découvrir, êtes-vous prêt à plonger dans la mer de l'amour de Dieu avec moi? Amen. On va le faire ensemble. Hébreux 13, verset 5. On va prendre notre temps, c'est relax ce matin. Vous avez déjà été magasiné, acheté vos cadeaux. Vous n'avez rien d'autre à faire toute la journée. Vous êtes avec moi aujourd'hui, puis vous êtes prêt à plonger, vous mouiller dans la parole. Dans Hébreux 13, verset 5, il est écrit, « Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Je ne te délaisserai point. » Si vous avez vécu l'abandon dans votre vie, le Seigneur de la Bible nous dit, « Non, moi, je ne ferai jamais ça. Je ne vais jamais vous abandonner. Je vous aime. » Vous savez, le Seigneur n'essaie pas de nous tasser. Des fois, les gens disent, « Ben, est-ce que Dieu va continuer à m'aimer? J'ai fait telle ou telle chose. » Dieu, là, son cœur, c'est pour nous. Si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Dieu, il veut vous avoir avec lui. Il va tout faire pour vous garder avec lui. Il n'est pas un Dieu pour vouloir vous tasser. Dans Romains 8 maintenant, Romains 8, chapitre 35, Romains 8, verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? » Et on a la réponse au verset 38. « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Gloire à Dieu! L'amour de Dieu est pour nous. Il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Est-ce que c'est merveilleux de savoir ça? Peut-être toute votre vie, vous étiez à la recherche de l'amour. Mais cet amour de Dieu est pour vous. Elle est pour vous. Mais certains d'entre vous, vous dites, « Oui, mais qu'est-ce qui se passe quand je pêche? Quand je commets un péché? Est-ce que l'amour de Dieu disparaît? » Mais Dieu a déjà une provision pour nous. Dans 1 Jean chapitre 1 et verset 9. Et ces versets-là, vous devriez les écrire parce que c'est important pour vous, si vous ne les connaissez pas par cœur, dans 1 Jean chapitre 1, verset 9. Parce que je peux vous garantir, même si vous avez fait de Jésus le Seigneur de votre vie, même si vous avez déjà été pardonné, je peux prophétiser que vous allez rechuter un jour. Ma sœur, avant de se faire baptiser, elle a attendu longtemps, jusqu'à l'âge de 17 ans. Puis on a compris pourquoi. Vous allez dire, ben à 17 ans, on est quand même jeune, c'est vrai, mais elle t'a sauvé bien longtemps avant. Et puis elle dit, ben moi j'ai peur que le moment que je vais me faire baptiser après, j'ai peur de repêcher une autre fois après. Puis j'ai dit, on peut te le garantir, tu vas pécher après ton baptême. Tu ne deviens pas parfait après dans ta condition. Notre position en Christ, oui, nous avons été parfaitement lavés, justifiés, mais on chute, même si on est des enfants de Dieu. Et Dieu nous donne une provision. 1 Jean chapitre 1, verset 9, ça ne veut pas dire qu'on vit dans le péché. Hein, Dieu ne nous appelle pas à pratiquer le péché, mais si nous avons commis un péché, le Seigneur nous donne ici une provision. 1 Jean 1, 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est un verset ici totalement libérateur. Donc, si vous êtes là et vous dites, « ben moi, j'ai commis tel péché, qu'est-ce que je fais maintenant? » Confessez ce péché-là au Seigneur. Vous confessez au Seigneur, vous dites, « Seigneur, j'avoue ce péché, je veux te demander de me laver, de me purifier de cette chose. » Et le Seigneur nous dit dans sa parole, « Il est fidèle et juste pour vous les pardonner. » Donc, le moment que vous avez confessé, immédiatement, vous avez été totalement pardonné. Bon, c'est important de savoir ça, mais il y en a qui disent, « Oui, OK, je crois ça, mais combien de temps là, je devrais vivre un petit peu à terre? Combien de temps là, je devrais vivre la culpabilité? Comme peut-être 2-3 heures après? » Il y en a qui disent, « Ben là, j'ai commis un péché qui est assez grave. Je pense peut-être 2-3 jours au moins, j'ai besoin de me sentir tout croche parce que quand même, il faut que je paye ça d'une certaine façon. Et quand les gens vont me voir à l'église, je suis mieux de pencher la tête comme ça parce que là, j'ai honte, là. » Combien de temps, pasteur, qui est acceptable? Un jour, deux jours? Si mon péché a été très grave, peut-être une semaine à me sentir vraiment wash, là, quand même. Faut pas que je recommence à vivre la vie chrétienne comme si rien n'était, là. On sait que Dieu connaît la vérité. Puis on rit, là, mais c'est une réalité, enfant de Dieu. Il y a des gens parmi nous, parfois, un péché a été commis, puis là, la personne dit, ben là, je me sens tellement mal, tellement coupable, que là, faut que je marche comme ça, là. La tête est à terre et écrasée. Non, le moment que le sang de Jésus vous a purifié, vous êtes 100% pur. Totalement purifié. Et ce péché n'a jamais existé. Savez-vous ça? Ce péché a été mis dans la mer de l'oubli, selon Dieu. Et le Seigneur a oublié cette chose. Donc, cette chose est oubliée. Et là, vous vous promenez comme si vous étiez un moins que rien, dans la honte. Pensez-vous que ça fait plaisir au Seigneur que vous marchez dans la honte comme ça? Non, parce que le Seigneur a payé un grand prix. Et quand vous lui dites, « Mais Seigneur, je me sens mal parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. » Le Seigneur dit, « Mais de quoi tu parles? De quoi parles-tu? Mais tu sais quand j'ai fait ça? » Non, j'ai aucune connaissance de cette chose. Parce que c'est oublié, c'est pardonné. Et là, vous lui dites, « Ouais, mais j'ai fait ça. » Mais c'est totalement effacé, totalement purifié. Vous êtes totalement pur. Donc, si vous êtes totalement pur, là, qu'est-ce qui est merveilleux? Vous devez marcher là-dedans. Le diable, lui, ce qu'il veut, il va accepter que vous êtes pardonné parce qu'il n'y a pas le choix. Mais si au moins, il peut vous siphonner votre joie, au moins 2-3 jours, là, il va dire, ben là, pour qui te prends-tu, là? Allez prier. Pour qui te prends-tu à aller à l'église? Regarde, le dimanche ou samedi, tu as fait telle affaire. Tu ne peux pas aller à l'église. Voyons, regarde. Tu vas avoir l'air d'un hypocrite. Le diable, peut-être certains d'entre vous, vous êtes déjà parlé comme ça. Mais vous allez dire, vous allez répondre, « Oh, monsieur diable, de quoi parles-tu? » Ben quand tu as fait ça, là, de quoi parles-tu? Ah, est-ce que tu es en train de me rappeler mon passé qui a été totalement effacé? Les péchés qui sont dans la mer de l'oubli? Sont dans la mer de l'oubli. Mais moi, je peux te parler de ton avenir, puis ça va chauffer un petit pépère. Donc, ne laissez pas l'ennemi vous voler votre joie une seule seconde. Vous avez demandé au Seigneur de vous pardonner. Il est fidèle et juste et il vous les pardonne et vous purifie. 100% à 100%. Donc, si vous êtes 100% purifié, vous devriez marcher comme un enfant de Dieu qui est totalement dégagé de tout crime. Vous avez été acquitté et sur votre front, vous avez le titre « Juste, Saint de l'Éternel ». Bon, ça, c'est bon à savoir. Mais là, il faut comprendre qu'il y a quand même des conséquences au péché. Et le problème, c'est quand on réalise ça, « OK, j'ai commis un péché, je me repens, ne vivez pas sous la culpabilité, marchez dans la liberté des enfants de Dieu. » Mais comprenez ceci, ne soyons pas séduits nous-mêmes en pensant qu'on peut vivre comme le diable et vivre une belle vie chrétienne, c'est impossible. Là, je vais vous expliquer une chose. Ne soyez pas séduits. Le péché a de graves conséquences. Et on va voir qu'est-ce que ça fait dans nos vies. Et je vous dis ça, est-ce que c'est pour vous faire sentir mal? Pensez-vous? Non. Hey, vous me connaissez bien. C'est pas pour vous écraser, c'est vous informer. Écoutez bien ceci. Romains 6, 23, ça dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais, toujours une bonne nouvelle avec Dieu, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Mais la mort, le péché, va toujours produire la mort dans vos vies. C'est ça que ça fait, la mort. On n'aime pas ça, la mort, n'est-ce pas? C'est pas le fun. Écoutez bien ceci. Dans Galates, chapitre 6, versets 7 à 9. Ici, ça nous explique le processus. Ça nous explique le processus de la mort, comment ça fonctionne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc, si vous marchez dans le péché, c'est sûr, il va y avoir des conséquences dans vos vies. Mais si vous marchez dans l'esprit, il va y avoir des conséquences également. Vous allez voir, c'est merveilleux. Verset 8, dans Galates 6, maintenant verset 8. Celui qui sème pour sa chair, ou qui marche dans le péché, si vous préférez, moissonnera de la chair la corruption. Comprenez que la corruption, c'est la mort. Mais celui qui sème pour l'esprit, moissonnera de l'esprit la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux? C'est ça qu'on veut, n'est-ce pas? La vie éternelle? Amen. Ne nous laissons pas de faire, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc, ce qu'on veut faire, c'est continuer à semer dans les bonnes choses de l'Esprit de Dieu pour récolter la vie, pour récolter les promesses de Dieu dans nos vies, pour vivre la vie et la vie en abondance. Amen. Gloire à Dieu. Mais comprenez ceci, que si vous pratiquez le péché, ce qui va se produire, vous allez récolter la mort dans vos vies. Et ça ouvre des portes gigantesques à l'ennemi pour qu'il vienne détruire toutes les belles choses dans vos vies. Si vous voulez vous faire vous voler, égorger et détruire par Satan, ouvrez-lui la porte et invitez-le à votre party. Dites-lui, regarde, je vis un party de péché, viens, apporte, vous êtes en train de le dire par votre vie, apporte la destruction dans ma vie, apporte la maladie, s'il vous plaît, viens avec ton sac avec la maladie, apporte ça dans ma vie, apporte la pauvreté, s'il vous plaît, apporte toute la malédiction de Deutéronome 28, amène ça chez moi. Parce que je vis un temps de semence dans la chair et je veux récolter la mort dans ma vie. C'est ça qu'on est en train de faire. Et là, si on se pose la question, mais comment ça, je vis tellement de choses horrifiques dans ma vie? Arrêtez-vous quelques instants pour voir quelle sorte de semence semez-vous de ce temps-ci. Donc, on doit comprendre, le Seigneur est toujours là pour nous recevoir, nous accepter, nous pardonner. Absolument, son amour est là pour nous. Il a tout fait pour nous épargner la destruction. Il a tout fait parce que Dieu nous aime. Mais même si on demande pardon, comprenez ceci, que si vous semez dans la chair, il va y avoir une récolte de destruction que vous ne voulez pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait si on a semé dans la chair? Vous avez besoin d'appeler ces choses et vous avez besoin, pas appeler qu'il arrive, mais vous appelez une faillite de récolte. En anglais, on dit un « crop failure ». Vous maudissez cette récolte. Premièrement, vous demandez pardon au Seigneur pour vos péchés, pour les choses que vous avez commises. Et ensuite, vous dites toutes les conséquences qui sont là, qui devraient venir. Au nom de Jésus, je maudis ces choses-là. Ils ne viennent pas dans ma vie. Au nom de Jésus, je déclare, je suis le béni de l'Éternel. Et je renverse la malédiction parce que Jésus a tout fait pour moi. Il m'a racheté de la malédiction. Amen. Donc, s'il y a des choses, vous étiez toujours en train de semer dans le péché. Arrêtez. Et là, recevez plutôt la provision de Dieu. Est-ce que ça fait du sens pour vous ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est important pour nous de comprendre ça. Une autre chose, en terminant. Donc, on comprend ici, il y a des conséquences certainement. Une autre chose qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a toujours de l'espoir. Si vous dites, ben moi, j'ai de la difficulté, pasteur, à vivre vraiment selon le cœur de Dieu, j'ai de la difficulté, ben écoutez l'infirmerie du Saint-Esprit. C'est un CD ou un enseignement sur l'Internet. Ça va vous enseigner comment vivre victorieusement en plaçant votre foi dans l'œuvre de la croix. Et c'est alors que vous recevez la puissance surnaturelle pour surmonter toute tentation. Mais une autre chose qu'on doit comprendre, c'est l'espoir se retrouve dans le Seigneur qui est votre force. On va aller ensemble dans le psaume 37. Psaume 37, versets 23 à 29. Ce matin, c'est un message qui est très bon pour le nouveau croyant, mais pour aussi l'ancien croyant qui vit peut-être des choses comme ça, semblables, qui n'a peut-être pas reçu l'enseignement au début de sa vie chrétienne. Mais c'est important pour nous aujourd'hui de comprendre ces choses. Dans le psaume 37, versets 23 à 29. « L'Éternel affermit les pas de l'homme et il prend plaisir à sa voie. » L'Éternel affermit les pas de l'homme. Ça veut dire il rend stable. L'Éternel rend stable les pas de l'homme. Quelqu'un de mature, c'est quelqu'un de stable dans les voies de Dieu. Quelqu'un de stable. Amen. S'il tombe, il n'est pas terrassé. S'il tombe, il n'est pas terrassé, ça veut dire il n'est pas jeté au loin. Il n'est pas jeté au loin. Comprenez ceci, s'il tombe, Dieu ne le jette pas au loin, comme enseigne la religion. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Voyez-vous, au lieu d'avoir l'image du Dieu qui vous repousse et qui vous jette au loin, non, s'il tombe, le cœur du Père vient vers l'enfant pour le relever. Car l'Éternel lui prend la main. Ensuite, le psalmiste nous dit, « J'étais jeune, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Toujours, il, en parlant du juste, il est compatissant et il prête, et sa postérité est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et possède à jamais ta demeure, car l'Éternel aime la justice. Pourquoi pensez-vous? Parce que Dieu aime protéger ses enfants. Dieu aime qu'on puisse vraiment semer dans la vie, dans l'esprit, pour récolter la vie. L'Éternel aime la justice. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. Mais la postérité des méchants est retranchée. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Oh, Dieu n'abandonne jamais ses fidèles. Ce qu'on a besoin de faire, c'est revenir au Père lorsque nous avons tombé. Revenir au Père. Et de vraiment vivre la vie éternelle que Dieu en réserve pour chacun d'entre nous. Je vous ai mentionné Ésaïe 43, verset 25, qui dit, « C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Et cette vie se retrouve dans la personne de Jésus-Christ. Dans Jean 20, verset 31, « Ces choses ont été écrites, tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, ces choses vous ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. » C'est l'objectif. Pourquoi nous lisons la Bible? Pourquoi nous avons passé du temps aujourd'hui dans la parole de Dieu? Écoutez bien, c'est dit. Dans Jean 20, 31, je vous relis le texte. « Ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, écoutez bien ceci, et en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Aujourd'hui, avez-vous la vie en son nom? Avez-vous la vie en son nom? Moi, j'ai la vie en son nom. Est-ce que j'ai expérimenté l'amour de Dieu? Oui, j'ai expérimenté l'amour de Dieu. Comme dans Matthieu 1, 23, Emmanuel, Dieu avec nous, j'ai goûté à la présence de Dieu, j'ai goûté à l'amour de Dieu dans la personne de Jésus-Christ. Je l'ai reçu dans ma vie. Et aujourd'hui, je peux marcher dans cette victoire et dans son amour à chaque jour de ma vie. Je vais inviter l'équipe de la louange à s'avancer maintenant. Ce matin, le message, c'est un message élémentaire pour chaque enfant de Dieu. Élémentaire, mais essentiel. Essentiel. Et j'aimerais ça qu'on puisse juste prendre le temps pendant quelques instants. Ce message qui est propagé ou proclamé à la radio, sur Internet, par CD, va toucher plusieurs personnes et on veut donner l'opportunité à tous ceux qui n'ont jamais fait de Jésus-Christ le Seigneur de leur vie, vraiment qu'ils puissent l'accepter. L'amour de Dieu est disponible pour chaque personne. Dieu nous aime. Dieu nous aime avec un amour éternel. Dieu veut notre bien. Il veut notre bien. Et on a besoin d'ouvrir la porte de notre cœur. On a besoin de le laisser entrer. On a besoin de s'abandonner. Et la façon qu'on le fait, c'est simplement en confessant de la bouche notre foi dans le Seigneur Jésus, comme il est écrit dans la parole. Et la chose qu'on veut faire, c'est simplement dire, « Oui, Seigneur, je te reçois. » Et on va prier ensemble. Je vais juste prier une prière ici. Et je vais inviter ceux à la maison, à la radio, sur Internet, en auto, peu importe, ici localement, si vous n'avez jamais fait de Jésus Seigneur de votre vie, on va juste prier ça ensemble. Je vais vous inviter à prier avec moi et on va encourager les personnes qui ne l'ont jamais fait. Penchez vos têtes maintenant. Penchons nos têtes ensemble. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait de Jésus Seigneur de sa vie, qui a besoin de goûter à l'amour de Dieu, faites-moi signe simplement en levant la main. Gloire à Dieu. Et on va prier ensemble. Merci, frère. Gloire à Dieu. On va prier ensemble. Père éternel, est-ce que vous pouvez prier avec foi avec moi? Prier, répéter avec moi comme soutien pour ceux qui ne l'ont jamais fait. Père éternel, je te reconnais aujourd'hui. Je reconnais mon besoin de pardon. Je reçois ton amour aujourd'hui. Je reçois ton Fils, Jésus, qui a payé ma dette de péché. Je te donne ma vie. Fais de ma vie un chef-d'œuvre pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'aimerais ça vous inviter à la radio, sur Internet. Contactez-nous à info@evqmedia.com. info@evqmedia.com et on va se réjouir avec vous et vous souhaiter la bienvenue dans la famille de Dieu. Seigneur Dieu, je te remercie pour ce temps qu'on a eu dans ta parole. Merci Seigneur Dieu pour ton amour que tu as révélé à chacun d'entre nous. Merci Seigneur Dieu pour la transformation que tu as faite dans nos vies. Seigneur, on te remet cette journée, on te remet cette semaine. On te remercie Seigneur pour les œuvres qu'on va pratiquer pour ta gloire. Merci Seigneur Dieu pour les œuvres que tu as préparées à l'avance pour nous. Merci Seigneur Dieu que quand te servant Seigneur Dieu, on peut se reposer en toi. On peut se reposer dans ton amour, dans ta présence, dans la présence de ton esprit qui est avec nous. Gloire à toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu. Je décrète Seigneur sur chaque tête ton shalom, le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine, bon groupe vie. Et à bientôt avec Pasteur Jean qui va prêcher la semaine prochaine. Amen. Gloire à Dieu.
Merci d'avoir écouté ce message de victoire. Nous espérons qu'il a été une bénédiction pour votre vie spirituelle. Pour de plus amples informations sur le pasteur Joel Spinks ou encore sur l'Église de la Victoire du Québec, visitez le www.evqmedia.com. L'Église de la Victoire du Québec, pour l'amour de la francophonie.